je suis déjà incapable de choisir un plat au resto sans finalement me lever d'un coup pour aller chercher le serveur et lui dire que j'ai changé d'avis, ce qui peut être très agaçant pour mes proches. Donc sélectionner mon retour préféré d'auditeur ou d'auditrice sur ces dernières années, laissez tomber. Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Chers auditeurs et auditrices de Bouffon, aujourd'hui est un épisode un peu spécial, puisque c'est celui qui clôt l'année. Mais en fait, il ne fait pas que clore l'année, il clôt également un cycle. C'est donc en effet le dernier épisode hebdomadaire de Bouffon. Alors, vous le savez, Bouffon a eu plusieurs vies. À mes côtés, il a un jour été un podcast abordant des sujets socio-miamologiques, semaine après semaine, avec un nouveau thème à découvrir chaque mercredi, un peu à la façon d'un calendrier de l'Avent, pour reprendre une expression qu'on m'a un jour soufflée et qui m'avait beaucoup amusée, tant je la trouve juste. Et puis ensuite, Bouffon s'est essayé aussi à un format bonus plus court, en plus de ses épisodes classiques. Et ça, ça a été notamment expérimenté lors du confinement, lorsque vous avez été nombreux et nombreuses à nous dire à quel point l'acte de manger était devenu plus que central dans vos quotidiens, à pied de chaussette dans le salon. Et enfin, plus récemment, depuis la rentrée dernière, Bouffon a changé de rythme en abordant des sujets plus sociétés encore, le temps de trame de 4 épisodes qui nous ont permis à chaque fois de rentrer davantage en profondeur dans les problématiques que l'on avait décidé de traiter. Bouffon, l'année prochaine, nous réserve d'autres surprises encore et on ne vous en dit pas plus, mais sachez seulement que la périodicité va changer et l'approche narrative aussi. Voilà, je ne vous en dis pas plus, ça cultive un peu de mystère d'ici là. En attendant, je vous propose de revenir à cet épisode pas comme les autres, puisque nous avons ouvert il y a une semaine une petite boîte à questions sur les réseaux et voici ce que nous avons reçu. Je vais tâcher de répondre à toutes vos interrogations.
Comment trouve-t-on les sujets abordés dans Bouffon ?
Alors, ces dernières années, la géométrie des équipes qui travaillent derrière Bouffon, elle a beaucoup évolué. Il est arrivé que nos confs de rédac ressemblent à de vrais apéros entre potes, avec les pintes en moins, bien sûr. Ce que j'essaie de dire avec cette métaphore, c'est qu'on pouvait être 5-6 autour d'une table et qu'on discutait à bâtons rompus, spontanément, en échangeant sur ce qu'on avait pu manger, lire, écouter, découvrir récemment, sans vraiment d'ordre du jour précis. Tout ça par le truchement de la sérendipité, de la spontanéité, de la discussion, de l'art de commencer une phrase sans savoir où ni comment on va la terminer exactement comme je suis en train de le faire là tout de suite. Et bien de tout ça, donc parfois, des coups d'éclat, des éclairs de génie, des fulgurances ont pu jaillir. C'est ce qui s'est notamment passé avec le sujet des tapassiettes. Par exemple, la mode des assiettes à partager à 7, 8, 9, 10, 11 ou 15 euros. Quand on vous dit niveau quantité, on recommande 5 assiettes par personne et que vous sortez de là en ayant dépensé un SMIC, mangé la corbeille de pain et envisagé de croquer dans l'avant-bras de votre ami qui ressemble étrangement à du poulet tellement vous avez encore faim. Ça, c'est typiquement un sujet qu'on a décidé d'aborder parce qu'une personne de l'équipe a demandé un conseil de resto pour son week-end. En précisant bien, comme critère, tout mais pas un resto à assiette à partager, s'il vous plaît. Et ça, typiquement, c'est un exemple de brief de conversation qui nous a donné envie de tirer le fil pour revenir sur l'histoire de l'apéro dînatoire, des tapas, qui sont littéralement des prétextes à boire, et de ce que donc la mode des assiettes portionnées dit de la cuisine de produits, du retour de la valeur de la commensalité, du partage, mais aussi de la vie urbaine qui nous fait terminer toujours plus tard et vouloir enchaîner, sans rentrer à la maison entre-temps, sur le fait de boire un coup tout en mangeant pour gagner du temps, de manière plus personnalisée et personnalisable. Donc ça, c'est un exemple de sujet qui a pu émerger de cette manière. Donc. Mais les confs de rédac de Bouffon, pour continuer à filer la métaphore de la table, Eh bien, ces cons de rédac, elles ne sont pas toujours des discussions de groupe qui ressemblent au moment de l'apéro non plus. Un sujet bouffon peut aussi naître d'une discussion avec une seule personne. Une productrice, par exemple. Façon déjeuner en tête-à-tête ou café. Où chacun, chacune arrive avec une idée plus argumentée. Une idée, en fait, qui a dépassé l'intuition puisqu'elle est déjà cadrée, découpée en épisodes avec des pistes d'invités qui sont pressenties.
Comment sont choisis les invités ?
Alors, si vous avez écouté l'épisode précédent avec l'interview du sociologue de l'alimentation Jean-Pierre Poulain, vous avez sans doute entendu ma métaphore du passe-plat en introduction de l'épisode. C'est une métaphore que j'aime bien utiliser pour définir bouffon et comparer le podcast à un passe-plat, donc cet endroit du resto qui fait la jonction entre la cuisine où sont préparés les plats et la salle où vont être servis les plats. Donc bouffon serait ici une modeste jonction entre le monde de la recherche et un plus large public. Alors une fois qu'on a dit ça, on comprend que le choix des invités est donc, pour bouffon, souvent à aller chercher du côté du monde universitaire. Donc nous, on regarde les thèses en sociologie, en histoire, en anthropologie, et ça c'est le fastidieux et très beau travail de nos programmatrices. On essaie de trouver la perle rare, donc la personne qui a travaillé sur des thèmes qui vont pouvoir venir éclairer notre question du jour, notre problématique traitée dans l'épisode de la semaine. Et en fait, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, parce qu'en faisant ça, on se passe de ce qu'on appelle en journalisme les bons clients. Les gens qui sont habitués à répondre aux questions des journalistes, les gens qui sont rompus à l'exercice médiatique de la phrase sensation, des idées synthétiques, de la formule qui marche. Et surtout, on a aussi envie d'éviter de donner la parole aux gens qu'on entend déjà trop souvent ailleurs. Alors, dans la mesure du possible, on va soulever le coin de la nappe et aller gratter sous la table pour chercher le profil idéal, ou alors aller au bout de la table, trouver l'invité qui parle le moins fort mais qui a pourtant plein de choses intéressantes à dire. Bon, voilà, j'arrête avec les métaphores maintenant, peut-être. Mais en gros, c'est l'idée qu'on va chercher donc cette personne ultra spécialisée, la sortir de son laboratoire hein, parfois, et l'inviter à venir exposer de manière peut-être plus vulgarisée certains des enjeux sur lesquels cette personne va travailler. Donc parfois, il faut réussir à convaincre ces chercheurs et chercheuses. D'ailleurs, la plupart du temps, vous ne serez pas étonnés de savoir qu'il s'agit surtout de convaincre les chercheuses, puisqu'elles sont nombreuses à être très humbles et à renvoyer vers plus spécialisées qu'elles, alors qu'on observe difficilement le même constat du côté des chercheurs. Hein. Je pense qu'on pourrait faire parler un chercheur non spécialisé plus facilement qu'une chercheuse non spécialisée sur un thème donné. Mais bon, ça, vous pouvez vous en douter, c'est un constat que l'on fait déjà dans de nombreux secteurs de la société.
D'où vient l'angle socio abordé dans Bouffon ?
L'angle sociologique de Bouffon, il vient d'une petite frustration personnelle, comme je l'explique dans le petit traité de la bouffe, ce que nos assiettes révèlent de nous, qu'on a sorti aux éditions Marabout en décembre dernier. J'ai longtemps trouvé qu'en France, pays de la gastronomie, grande sœur de toutes les gastronomies, avec son repas reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO, j'ai longtemps trouvé que dans ce pays, donc, on se reposait beaucoup sur nos lauriers en matière de réflexion sur le fait alimentaire. Le traitement qu'on réserve à l'acte de manger, il a tendance à être soit très centré sur la belle assiette, avec la critique de restaurants comme exercice, la starification à outrance de certains chefs, avec les dérives qu'on connaît en termes d'invisibilisation des équipes qui font tourner le resto, le sentiment de domination de certains chefs qui se croient tout puissants et tout permis et qui entretiennent donc une culture de la violence dans leurs équipes, un certain virilisme dans les rapports. Donc, soit ce traitement qu'on réserve à l'acte de manger, il est très esthétisant, autour de la belle assiette, le beau produit, le mercato des chefs, la critique des bonnes tables du moment, ou même le côté pop des discussions liées à la bouffe, aux bonnes adresses, aux bons plans, avec le pendant lifestyle, très street food, très nouvelle génération, mais uniquement donc centré vers les bonnes adresses, les tendances, bref, la consommation. Soit il est, ce traitement, hyper patrimonial. Et là, d'un coup, on va s'émerveiller plutôt des beaux terroirs français, des paysages fétichisés, de nos belles vallées, de nos belles contrées, avec un certain culte du passé et donc un passéisme. Et en fait, quand le traitement du fait alimentaire, il ne verse pas donc soit dans l'esthétique et la consommation, soit dans le patrimoine, et ben en fait, souvent, c'est qu'il verse dans un troisième axe, un troisième angle qui est lui plus froid, plus médical, plus diététique. Alors ça va être autour souvent de la notion de régime ou de bonne santé, de conseils pour une alimentation saine, bref une alimentation utilitaire. Et donc quand on m'a proposé de reprendre Bouffon en 2019, j'avais un peu tout ça en tête. J'avais en moi cette sensation de ne pas être rassasiée par l'offre médiatique, l'offre sur la place publique, en termes de traitement de la nourriture et de l'acte de manger. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que cet acte quotidien, routinier, inlassablement répété, dit de nous. On mange parce qu'on a besoin de manger, mais on mange aussi parce que manger fait plaisir, manger réunit, manger nous définit. Et en ça, manger implique donc toute une série de choix. Avec qui, quand, quoi, où. Et c'est parce que cet acte d'ingérer de la nourriture, il est si banal et si partagé par toute l'humanité qu'il est une manière donc géniale de passer au peigne fin des problématiques sociétales qui vont des questions d'identité à l'écologie, en passant par les rapports de domination et la politique. Donc en 2019, c'est avec la confiance et la conviction qu'on allait dans la bonne direction de Laura Cuissard, ma productrice de l'époque, qu'il a été choisi d'acter ce virage sociologico-conversationnel de Bouffon. Et ça tombe bien puisque je n'étais, je ne suis toujours pas, ni critique culinaire, ni animatrice d'un talk show, mais bien journaliste, et plus précisément journaliste de société. Alors j'ai fait avec ce que je savais faire, avec ce que j'avais déjà dans ma boîte à outils. J'ai dépiauté la littérature consacrée, j'ai mené des entretiens longs, j'ai problématisé des sujets, c'est-à-dire qu'à chaque thème choisi, je me suis efforcée de lister des questions en me faisant la promesse que vous repartiriez en tant qu'auditeur, auditrice, forcément avec les réponses à ces questions. Un peu à la manière d'un article de presse écrite en fait. Quand vous avez le titre sous les yeux, le chapeau, l'intro, le premier paragraphe, l'icono, et bien avec tout ça, en général, vous comprenez ce que l'article va venir expliquer, éclairer ou décrypter. Bien, c'est un peu la même ambition qu'on essaie d'avoir à chaque fois avec les épisodes de Bouffon.
As-tu de futurs projets éditos ?
J'ai quelques idées, plus ou moins abouties, certaines qui dorment clairement dans un tiroir, mais d'autres qui sont en discussion déjà avec des maisons d'édition, mais rien qui ne puisse être vraiment annoncé officiellement aujourd'hui en tout cas. À part peut-être que là je vous parle actuellement du Vietnam, où je passe 2 mois en résidence à l'occasion d'un projet de recherche porté par Vin Nguyen avec le soutien de l'ECAL, qui est l'école d'art et de design de Lausanne. Et dans le cadre de ce projet, on passe en revue les objets de la vie quotidienne vietnamienne. Et parmi eux, on s'attarde plus précisément sur ceux qui auraient été introduits ou massivement démocratisés par les colons français. Et notre idée, c'est d'ensuite voir si ces objets ont été vietnamisés. Autrement dit, si les Vietnamiens et Vietnamiennes se sont appropriés ces objets pour les modifier, pour en modifier l'usage ou pour les transformer dans leur forme ou non. Et l'exemple le plus flagrant d'une vietnamisation, et ben justement, ça touche à un objet culinaire puisqu'il s'agit de la baguette que les colons français ont ramenée au Vietnam à l'époque. Mais on voit bien que le peuple vietnamien, très fier et très créatif, ne s'est pas contenté quand ensuite les colons français sont partis et de refaire des jambons beurre derrière. Mais ils ont inventé leur propre sandwich, qui est donc le banh mi. Donc voilà, ce projet de longue date de recherche de vietnamisation des objets, il va un jour donner lieu à une expo et à un livre. C'est un projet qui touche à la sociologie de l'objet sous un spectre postcolonial, si on devait le décrire dans les grandes lignes.
Quel est ton top 3 des meilleurs ouvrages de cuisine ?
J'aime bien cette question qui parle des meilleurs ouvrages de cuisine et non pas des meilleurs livres de recettes, parce que ça va me permettre de répondre à ma manière, donc, en vous parlant plutôt de livres qui sont transdisciplinaires ou qui utilisent l'alimentation pour les emmener ailleurs encore que dans une simple confection de plats, on va dire. Alors, j'adore « You and I Eat the Same », c'est un livre de Chris Ying, un ouvrage collaboratif, dont le sous-titre est « On the countless ways food and cooking connect us to one another ». Donc c'est un ouvrage qui compile des textes de différents auteurs à propos de pratiques alimentaires piochées un peu partout à travers le monde. Et ça permet de lier en fait l'universel et le particulier à travers de nombreux exemples de pratiques très locales de nourriture. C'est un livre foisonnant qui fait penser à plein de choses, qui donne faim aussi en même temps qu'on le lit et qui donne extrêmement envie de voyager. Ensuite, j'aime beaucoup Roland Barthes et ses mythologies ou sa cuisine ornementale. Alors, chez Roland Barthes, la nourriture, elle a toujours tenu une très grande place dans la vie de ce sémiologue. C'est quelqu'un qui est passionné par les plaisirs de la table, mais aussi par la joie de trouver le mot juste. Donc, il adore trouver des comparaisons à faire entre la gastronomie et l'écriture. Et il fait beaucoup d'analogies, en fait, entre les mots et les mets. Et il y a une citation à lui, donc dans un entretien qu'il a accordé en 1966 à Raymond Bellour, donc les aliments. « D'une part, il possède une existence quotidienne qui représente pour moi une possibilité de connaissance de moi-même au niveau le plus immédiat, car je m'investis dans ma vie propre. Et parce que d'autre part, il possède une existence intellectuelle et s'offre à une analyse systématique par des moyens formels. » Et je trouve que c'est une très belle manière de parler de la nourriture, et de rappeler à la fois l'aspect très prosaïque, très pragmatique de la nourriture en tant qu'objet sensible, objet du quotidien, objet banal, objet qui permet d'accéder de manière assez directe, assez immédiate, comme il le dit, à soi, à la vie, mais aussi une existence à part entière d'un point de vue intellectuel et sont des moyens aussi d'analyser d'autres raisonnements. Et enfin, en troisième ouvrage ou en troisième auteur-autrice, je citerai volontiers Ryoko Sekiguchi, qu'on a déjà eu la chance de recevoir dans Bouffon. Ryoko Sekiguchi, c'est une poétesse d'origine japonaise qui a une manière très sensible de parler de nourriture. En fait, quand je dis sensible, je tiens à le préciser, c'est dans le bon sens du terme. C'est pas une préciosité, c'est pas une vulnérabilité. Sensible au sens... où elle ramène la nourriture à ce qu'elle est, c'est-à-dire un matériau, un conducteur à sensations, un jeu de texture, un enchaînement de goûts, parfois. Il y a quelque chose d'extrêmement juste dans la manière qu'a Ryoko de parler de nourriture, d'extrêmement juste, mais aussi d'extrêmement personnel. C'est pas une justesse au sens vérité-vrai, puisque c'est son expérience à elle. Mais il y a une justesse dans le sens où on sent cette sincérité avec pile le bon équilibre entre une forme de spontanéité dans l'approche de la nourriture, voire de naïveté, et de manière aussi d'intellectualiser énormément à partir de choses et de sensations très simples. Ryoko Sekiguchi va réussir à nous emmener ailleurs et nous emmener dans un système de pensée qui est, lui, en réalité, plus complexe que le point de départ qu'elle prend dans l'assiette. Et c'est ce jeu d'équilibre qu'elle fait très bien, que je trouve extrêmement agréable à découvrir quand on la lit. Notamment dans Nagori, qui est un de ses essais, dans lequel elle propose d'utiliser les aliments comme finalement un sismographe de l'épaisseur du temps, le temps qui passe. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous ai déjà parlé de Ryoko Sekiguchi dans Bouffon et que tout simplement, pour la découvrir, rien de mieux que de la lire.
Comment garder un rapport décomplexé à la nourriture ?
Ça, c'est une question qui n'est pas évidente et je crois qu'on serait bien en peine de trouver la formule efficace à tous les coups. Parce que beaucoup de choses entrent en jeu dans notre rapport à l'alimentation, je crois. À commencer par nos passifs respectifs, notre historique à nous, notre odyssée culinaire personnelle, et donc aussi avec celui-ci, le rapport au corps, ce à quoi on a été habitué dès le plus jeune âge dans sa famille, les messages qu'on a reçus, les relations qu'on a eues, les remarques qui ont pu nous toucher, nous renforcer ou nous blesser. Donc tout ça est très personnel finalement, très individuel. Spontanément, je dirais que pour commencer, on peut se faire une petite tape dans le dos et faire preuve de bienveillance, même si le mot est galvaudé, et donc de bienveillance envers soi-même, en se souvenant qu'avant de faire comme on veut, eh ben, bien souvent on fait comme on peut, avec ce qu'on a dans notre petite besace contre un bal depuis le début de cette trajectoire personnelle. Mais ensuite, pour quand même essayer de répondre à la question, dans l'état d'esprit que l'on peut viser pour garder un rapport décomplexé à la nourriture, je dirais qu'il faudrait avoir en tête que l'alimentation, c'est bien plus qu'une affaire d'ingestion d'aliments définissables par leur nombre de calories, leurs nutriments, leurs vitamines. On ne mange pas que pour apporter de l'énergie à son corps physique. On mange aussi pour prendre soin de son mental. Et justement, le mental, la santé mentale, c'est aussi la santé. On mange pour retrouver des souvenirs, être chouchouté par des sensations, partager du bon temps avec d'autres, ou même se faire plaisir tout seul. Bref, on mange du sens. Et j'ai la conviction qu'à partir du moment où on se souvient de ça, de l'importance de voir la nourriture comme autre chose qu'une denrée utilitaire, eh bien, on se lâche un peu la grappe, avec une vision optimisée de la nourriture, une vision culpabilisatrice et donc une vision restreinte. Et on embrasse la nourriture pour ce qu'elle doit être, un équilibre entre bénéfice pour le corps et bénéfice pour l'esprit. Et en vous disant tout ça, je pense à deux citations. D'abord Hippocrate, donc médecin grec de l'Antiquité, qui disait « que ton alimentation soit ta première médecine », pour rappeler donc l'importance de l'alimentation dans la santé. Oui, certes, il avait raison et il a toujours raison. Mais on peut aussi penser, pour compléter, à Claude Lévi-Strauss, qui dit, lui, du repas ou de l'alimentation, que le repas doit être non seulement bon à manger, mais aussi bon à penser. Et c'est une manière de rappeler ici que la nourriture, donc, est autre chose que ce matériau qui va venir nous donner de l'énergie et venir huiler la mécanique de notre corps et le mettre en branle. C'est aussi du sens, c'est aussi le sens qu'on y met et le sens qu'on décide de continuer à y mettre.
Comment on peut se faire plaisir quand on est étudiant ?
Récemment, j'ai été invitée à mener un workshop d'une semaine auprès d'étudiants et d'étudiantes de l'ENSA Marne. Des étudiants en archi. Et c'était une semaine que j'ai trouvée vraiment passionnante, qui m'a énormément nourrie, parce que je suis arrivée avec des idées que je voulais transmettre, mais je suis aussi repartie avec beaucoup de choses, de nouvelles informations, de choses qui m'ont nourrie à travers des discussions avec ces étudiants et étudiantes. Et donc c'est une semaine que j'ai eu la chance de passer aux côtés de trois autres intervenants, l'architecte Luca Eminenti, la chef Aurore Bonamy, et l'ingénieur du son que vous connaissez bien, qui fabrique chaque semaine Bouffon, Laurie Galigani. Je vous parle de cette semaine, de ce workshop, parce que ça a été l'occasion pour nous d'explorer toutes les questions avec les étudiants et étudiantes qu'il y a autour de la place de l'alimentation dans l'habitat. Donc ces étudiants sont dans des études d'archi, et donc ça nous a intéressé de réfléchir avec eux à la place de la nourriture, de l'acte de manger, dans leur quotidien, dans l'organisation de nos foyers. Et souvent cette question, en fait, elle existe déjà dans notre société, mais elle est souvent prise en compte du point de vue de la famille. La table familiale, la cuisine domestique, la grande maisonnée, la fratrie. Mais ce qui reste dans l'angle mort du manger chez soi, c'est souvent la question de la condition des étudiants et étudiantes. Donc le peu de moyens, l'étroitesse des cuisines dans les studios, le peu de temps en période de révision par exemple, ou le peu d'imaginaire parce qu'on débute dans son autonomie alimentaire. Et en fait, au cours de cette semaine, on a fait un atelier plus précisément pour répondre à cette question très pragmatique, comment égayer sa cuisine du quotidien lorsqu'on est en études, qu'on a peu de thunes, peu d'espace et peu de temps. Et là, Aurore Bonamy, la chef qui nous a accompagnés, nous a fait un atelier génial, un atelier de bocaux pour faire des pickles. Alors oui, donc ça demande forcément un peu de temps en amont, le temps de l'atelier, genre plusieurs heures un dimanche après-midi par exemple. Mais ensuite, c'est un vrai gain de temps parce qu'on se retrouve avec des petites choses fermentées, vinaigrées, aigres douces, prêts à l'emploi, à ajouter dans son assiette. Genre sur une tombée de légumes ou une plâtrée de pâtes, tout est toujours meilleur quand on a une petite pointe de vinaigré. Et ça, c'est une leçon que j'ai pu apprendre aussi au contact de nombreux chefs que j'ai pu suivre en cuisine. Quand un goût nous semble un peu triste, un peu fade, qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose, souvent, spontanément, on pense que ce quelque chose, ça va être du gras ou du salé. Mais parfois, cette autre chose qu'il faut ajouter pour réveiller un plat, ça va être plutôt de l'acidité ou du vinaigré. Et il y a un épisode dans lequel on entend la chef Lily Gadola du restaurant Limat à Marseille qui en parle super bien dans Bouffon. Alors voilà, personnellement, c'est le conseil que j'aurais adoré recevoir en étant étudiante. Faire des bocaux, c'est pas cher. Il faut juste des aromates, des légumes. Par exemple, les légumes de saison, les légumes qu'on trouve au marché, qu'on aime bien. Des oignons rouges, par exemple, ou du chou, du vinaigre, du sel, des épices, de l'eau. Quelques bocaux récupérés, après avoir fini un pot de confiture ou de pâte à tartiner le matin, par exemple. Et hop, pour même pas une dizaine d'euros, vous avez plusieurs bocaux qui vont s'améliorer avec le temps, mais qui vont aussi, en attendant, vous servir de déco dans votre cuisine. Parce que mine de rien, ça ajoute de jolies couleurs aussi sur les étagères. Et si ça vous ennuie de faire ça tout seul, ben vous pouvez toujours transformer cette mission bocaux en activité avec des amis. Genre atelier bocaux à la maison le prochain dimanche où il pleut.
Est-ce qu'il y a d'autres formats prévus ?
Alors, je viens justement de vous parler d'un workshop et clairement, j'adore le format workshop qui permet d'aller à la rencontre d'un groupe d'étudiants et d'expérimenter ensemble sur la base d'une question radiophonique, journalistique, sociétale, culinaire ou tout ça à la fois. Et de manière générale, je suis très attachée à la transmission, à l'enseignement aussi, plus précisément, puisque je donne des cours à la fac de Nanterre dans un master de sémio depuis quelques années. Et l'an prochain, je donnerai un cours de questions sociales à Sciences Po Lille dans le master Boire, Manger, Vivre, merveilleux master, qui prépare aux questions de l'alimentation. À côté de ça, j'ai aussi à cœur, quand j'en ai l'occasion, de participer à des colloques, des journées d'études à l'université, des conférences, des tables rondes. Je trouve ça très intéressant de naviguer entre médias et enseignement. Après, la transmission, c'est aussi auprès des plus jeunes qu'elle doit se jouer. Et c'est ce que j'aime beaucoup faire au sein de l'école comestible, dont on a monté une antenne provençale à Marseille, donc de cette association qui a été créée initialement à Paris par Camille Labro. J'ai eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises dans Bouffon, l'école comestible.
À quand un food tour à Marseille ?
Alors, si food tour il y a, il sera informel, parce que j'adore emmener mes proches en visite à Marseille, marcher aux quatre coins de la ville, grignoter tout ce qu'il y a de bon à grignoter, s'attabler à mes bistrots préférés. Mais j'aurai personnellement beaucoup de mal à professionnaliser cette offre et à la monétiser. Je pense qu'il y a d'excellents food tours, hein, c'est pas le problème, avec des réels partis pris, des food tours très engagés, très créatifs qui existent. Mais concernant Marseille, qui est une ville parfois en proie à un certain tourisme de masse l'été, je ne saurais pas par quel bout prendre le fait de mettre en avant des adresses sans participer à une forme de gentrification ou une forme de surfréquentation. Donc j'ai l'impression que de toute manière, les bonnes infos ne manquent pas. Et personnellement, donc, j'aurais bien du mal, si c'était mon projet, à faire un food tour qui est conscient de tous les enjeux qu'on vient de nommer. En revanche, Waël, puisque je sais que c'est toi qui as posé la question, je t'emmène toi en food tour quand tu veux. Donc pour info, Waël, c'est l'auteur d'un fantastique documentaire qui s'appelle Mon incroyable 9-3, dans lequel il se donne pour mission de montrer un autre visage de la Seine-Saint-Denis. Alors disons que si je devais emmener Waël manger à Marseille, je ferais bien attention à ne lui montrer que des pépites, des adresses inconnues au bataillon, des cantines, des rades de quartier qui valent le détour, parce que Waël, c'est ce que tu mérites.
Est-ce que tu as toujours aimé faire des podcasts sur la nourriture ou c'est quelque chose sur lequel tu t'es penché pour Bouffon ?
J'aime beaucoup cette question parce qu'elle m'amène à réaliser que ma boîte à outils a évolué avec le temps et que je me suis formée au fil des années à votre contact aussi. Alors du coup, merci à vous, auditeurs et auditrices de Bouffon. Mais de manière générale, je dirais que chaque épisode amène son nouveau lot de questions et donc de recherches spécifiques sur un sujet donné. Dans une revue universitaire donnée, des articles donnés, dans des émissions données. Donc chaque semaine, j'ai à me documenter de manière inédite. Mais tout en disant cela, je dois reconnaître aussi qu'à force de lire, d'écouter, de noter des choses dans le domaine des food studies, j'ai fini aussi par accumuler un certain nombre de références. Et donc il m'arrive aujourd'hui d'aller piocher tout ça dans ma mémoire à moi, plus que dans une mémoire numérique qui sera Internet, ou une mémoire consignée, écrite, qui serait celle des essais spécialisés.
Quel a été ton meilleur retour d'auditeur sur Bouffon ?
Alors, je suis déjà incapable de choisir un plat au resto sans finalement me lever d'un coup pour aller chercher le serveur et lui dire que j'ai changé d'avis, ce qui peut être très agaçant pour mes proches. Donc, sélectionner mon retour préféré d'auditeur ou d'auditrice sur ces dernières années, laissez tomber. Je peux quand même avouer que j'ai commencé un dossier récemment sur mon ordi avec des captures écran de vos meilleurs messages privés. Des messages parfois très longs où vous vous ouvrez à moi, vous me confiez une anecdote ou un secret suite à l'écoute d'un épisode qui vous a fait rire, qui vous a ému, qui vous a bouleversé. Et ça, c'est vraiment le meilleur des cadeaux. Et je regrette de ne pas avoir commencé ce dossier un peu plus tôt. Il y en a beaucoup, beaucoup, et je suis toujours très heureuse de lire vos retours. Donc, n'hésitez pas à continuer parce que c'est une énorme rétribution pour nous. Mais là, comme ça, pour quand même jouer le jeu et réfléchir à plusieurs retours qui m'ont fait extrêmement plaisir, il y a une personne qui s'est lancée dans une thèse en sociologie de l'alimentation parce que écouter trop d'épisodes de Bouffon lui a fait réaliser que ce sujet grouillait en elle depuis longtemps. Et ça, en fait, il y en a plusieurs des gens qui nous ont écrit pour nous dire que Bouffon les avait nourris intellectuellement au point de les inciter à se lancer dans des food studies. Ça, franchement, c'est absolument génial. J'ai pas pour projet de reprendre les études, en tout cas, peut-être pas dans l'immédiat, mais si c'était à refaire, peut-être que moi-même, je ferais des études dans les food studies, peut-être que je ferais de la sociologie de l'alimentation. Donc, je suis très heureuse que, en tant que journaliste société, de pouvoir communiquer ce plaisir-là, d'utiliser la nourriture comme une loupe pour analyser des faits de société, au point d'initier des projets de recherche chez d'autres, c'est extrêmement flatteur de savoir ça. Après, en autre retour, je dirais qu'il y a aussi ce père de famille qui m'avait écrit pour me dire qu'il s'était rabiboché avec sa fille à force d'écouter des épisodes de Bouffon ensemble et de les débriefer. Alors, imaginer les gens parler de Bouffon ensemble, ça, je trouve ça absolument touchant. Mais en plus, les imaginer s'être rapprochés par ça et grâce à ça, ça me fait absolument fondre. Ensuite, en dernier retour, je fais comme si on m'avait proposé de faire un top 3 alors que pas du tout, mais dans mon top 3, je mettrai aussi la BD qu'on a reçue récemment d'une auditrice qui est illustratrice et qui a été très touchée par un épisode de Bouffon et qui l'a retranscrit par le dessin. Donc un épisode de Bouffon qui parlait du resto de demain. Et je trouve ça génial de voir comme les idées peuvent circuler, comment un épisode de podcast peut devenir une planche de BD qui va à son tour trouver un nouveau public. Et je résiste pas à l'envie d'ajouter un petit bonus aussi. De manière générale, j'ai adoré les nombreux retours qu'il y a eu sur le petit traité de la bouffe, notamment des retours de vos parents, oncles, cousins, nièces, qui ont apparemment dévoré le livre alors que soit ils ne connaissaient pas le podcast, soit ils n'étaient pas particulièrement des gens qui aiment cuisiner. Et ça, ça me fait réaliser à quel point la nourriture n'est pas qu'une affaire de foodie, tout simplement, mais bien une affaire de pratique sociale, de bien commun et de vivre ensemble. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le projet de l'approche que l'on défend avec Bouffon.
Est-ce que tu goûtes toujours autant d'aliments ou c'est juste pour le podcast que tu t'intéresses à la bouffe ?
Alors, j'ai vraiment envie de dire au commencement, la bouffe. Non, parce que clairement, si la nourriture est une loupe qui m'intéresse autant pour analyser des faits de société, c'est pas d'abord par postulat intellectuel ou le fruit d'une longue réflexion, mais bien par terrible gourmandise. Voilà, j'aime manger. Et j'en ai fait mon métier, ou en tout cas le sujet de mon métier, et c'est du pur opportunisme, clairement. Mais ça rejoint un conseil que je donne souvent à mes étudiants et étudiantes. Ne vous forcez pas à chercher l'angle ou le sujet noble trop loin de vos goûts spontanés. On a parfois cette tentation, en fait, on a parfois l'impression qu'il faut aller chercher loin les choses, mais en réalité, on a toutes et tous nos évidences, nos lunettes préférées pour approcher le monde. On a tous nos passions. Donc, allez farfouiller là-dedans en priorité. Et c'est dans ce monticule d'obsession que vous devriez trouver une singularité dans votre démarche ou votre future approche d'un métier.
Pour ce qui est de la théorie que tu utilises pour les épisodes, est-ce que c'est des lectures que tu as faites par le passé et dont tu te souviens encore ? Ou est-ce que toutes les semaines, tu te penches sur de nouveaux écrits pour alimenter ta réflexion ?
Alors, j'ai toujours aimé utiliser l'alimentation comme un fil conducteur, un cheval de Troie dans mon travail, parce que en tant que journaliste société, j'ai réalisé au fil du temps, au fil de ma pratique, ça fait 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans que je suis journaliste, j'ai fini par réaliser que partir de l'assiette, partir du quotidien des gens, pour ensuite les emmener vers une question, par exemple, d'écologie, c'est beaucoup plus pédago et intuitif et entraînant que directement leur faire la leçon sur, par exemple, un modèle d'agriculture. Et ça, c'est un constat que j'ai éprouvé donc de nombreuses fois en tant que journaliste de presse écrite. Quand ensuite on m'a proposé de reprendre Bouffon, ça m'a semblé évident que la même chose pouvait non seulement se faire à l'oral, mais en plus de manière plus spontanée encore, à travers des départs de discussions spontanées et du partage d'anecdotes. Ensuite, concernant le fait de faire des podcasts, alors après mes études de Sciences Po puis de journalisme, je me suis imaginé faire que de la presse écrite. Je me suis pas dit que faire de la presse écrite et de la radio pouvait être possible en même temps. En fait, j'appartiens encore à cette génération où il fallait faire absolument un choix entre des spécialités. Il y avait la spé télé, spé radio, spé presse écrite. Et dans mon école de journalisme, j'avais quelques profs quand même qui voulaient me pousser à faire radio. Mais moi, parce que j'avais d'abord une appétence pour les mots, je pensais que l'écrit, c'était forcément mon horizon tout tracé. Et aujourd'hui, je découvre non seulement qu'on peut travailler pour différents médias et formats, mais aussi que l'audio ne fait pas l'économie de l'écriture, du travail du rythme et de la beauté des mots. J'avais en tête à l'époque les flash info radio, mais la production radiophonique, fort heureusement, ça n'est pas que ça. Merci à nos auditeurs et auditrices pour leurs questions très pertinentes. Merci encore de nous avoir suivis pendant tout ce temps et pendant cette dernière année sur le format hebdomadaire de Bouffon. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures sur Bouffon. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts parce que ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.